RFI, grand reportage. Andréane Mellard, le magazine que vous allez suivre, est une rediffusion.
Il y a 10 ans, la crise des subprimes la frappait en plein cœur. Parsemée de maisons abandonnées et de friches industrielles en ruine, Détroit a perdu près des 2/3 de sa population. Mais depuis 5 ans, la ville est portée par ses habitants et quelques milliardaires qui ont décidé d'investir. Le berceau de l'industrie automobile américaine renaît de ses cendres et devient une destination tendance pour les touristes en quête d'aventures urbaines. Détroit, la renaissance d'une cité. Un grand reportage réalisé par notre correspondante aux États-Unis, Anne Corpé.
Un espace de promenade longe le bord de la rivière de Détroit au pied des gratte-ciels du centre-ville. Quelques sportifs y font leur jogging, des adolescents se prélassent. Un couple de retraités se photographie devant un vieux bateau à aubes. Des touristes qui ont surmonté leurs réticences initiales.
Je m'appelle Patty.
Je suis Stan.
Nous venons du sud-ouest de Chicago.
À 3h30 de route.
On voulait venir voir, on a entendu dire que c'était la reprise. On voulait voir ce qui se passait.
C'était quoi votre idée de Détroit avant de venir?
Des bidonvilles, de la saleté, la criminalité.
Et
c'est superbe, très développé et très accueillant.
Je suis très surpris. C'est très joli, très beau, très propre.
Un tramway flambant neuf remonte vers le centre-ville. Les employés de bureau font la queue devant des camions repas garés sur une petite place. D'un geste, Jackie, retraitée, embrasse les façades rutilantes, l'élégance des édifices qui effleurent l'azur.
J'ai vécu ici toute ma vie. J'ai beaucoup d'espoir pour Détroit. Les valeurs des propriétés immobilières augmentent. Il y a de nouvelles maisons, de nouveaux commerces, de nouveaux appartements, de nouveaux lofts. Le centre-ville est magnifique. J'adore.
Le guide Lonely Planet a désigné Détroit comme l'une des villes phares de l'année 2018. Nous sommes numéro 2. Seule Séville, en Espagne, nous devance dans leur classement.
René Monforton est chargé de la promotion du tourisme à la ville depuis 23 ans. Cela n'a pas toujours été facile. Détroit, la sinistrée, a longtemps été ignorée. Mais aujourd'hui, les hôtels peinent à satisfaire la demande.
Nous avons 19 millions de touristes chaque année et ils dépensent 6 milliards de dollars dans l'économie locale. Il s'agit surtout d'Américains qui vivent dans un rayon de 3 à 6 heures de route. Mais nous voyons de plus en plus de visiteurs du reste des États-Unis et du monde entier. Une compagnie aérienne islandaise low cost a lancé une nouvelle ligne jusqu'à Détroit il y a 4 ou 5 mois et beaucoup de compagnies aériennes ont fait la même chose ces dernières années. C'est bien le signe que la situation de la ville s'améliore.
Un milliardaire, Dan Gilberts, à la tête d'une société de crédit immobilier, a puissamment contribué à la résurrection d'un centre-ville autrefois désert et crasseux. Il a racheté 90 immeubles, les a rénovés et remis sur le marché. Henri Brich, français installé à Détroit, achève sa thèse sur le déclin et la renaissance de la ville.
Ce trou qu'on voit là, c'est le nouveau projet de Dan Gilberts qui veut construire son gratte-ciel à lui. Donc ça va être le plus grand gratte-ciel de la ville, le plus haut. On a commencé par réhabiliter les immeubles vides et délabrés. Maintenant, on peut commencer à combler les trous en construisant de nouveaux immeubles.
C'est le Détroit qui était en ruine et qui a été complètement réhabilité.
Voilà, c'est le Détroit en renaissance. C'est là où sont concentrés tous les investissements. Il y a encore pas mal d'immeubles en travaux, comme on peut le voir, mais il en reste très peu. Depuis 2-3 ans, l'objectif, ça a été de remplir tous les rez-de-chaussée avec des commerces ou des restaurants de haut standing. Quand Nike a ouvert sa première boutique dans le centre-ville, il y a eu quand même un événement avec le maire, etc. On est encore au début, quoi, même si c'est très cher et peu de gens peuvent se payer ici les lofts qui sont à la location. En termes de commerce, ça prend plus de temps que d'attirer des habitants.
Un peu plus au nord, au-delà d'une de ces artères à 6 voies qui strient la ville de leurs bruyantes cicatrices, c'est un autre milliardaire, Mikey Leach, qui a investi sa fortune, gagnée en vendant des pizzas, dans la construction d'un stade.
En fait, ça fait à peu près 20 ans qu'il prévoit de faire ça. C'est devenu public, on va dire, 1 ou 2 ans avant qu'il lance la construction du stade. Donc ça fait 20 ans qu'il achète les parcelles à des prix dérisoires à la ville ou à des gens qui ont vendu ça parce qu'ils disaient « ici, c'est la cour des miracles, ça vaut rien ». C'est un modèle un peu typique du redéveloppement des villes américaines de ramener les équipes de sport dans le centre-ville pour attirer en fait les touristes et les habitants des banlieues qui consomment énormément pour des sportifs.
Yeah. I want y'all to take a trip to Murder Mitten, Detroit. Let's go.
À l'ouest du centre-ville, la silhouette de l'immense gare centrale du Michigan se découpe sur le quartier historique de Corktown. Abandonnée depuis plus de 30 ans, la vieille dame, comme on l'appelle ici, incarnait la décrépitude de Détroit. Elle sera bientôt le symbole du renouveau. En juin dernier, Ford a annoncé le rachat de ce lieu emblématique, 18 étages, 46 000 mètres carrés à rénover, pour l'instant toujours cerné par des barbelés. Sean Wilson, responsable de projet chez Ford.
C'est un projet énorme. Ford se demandait comment faire venir de jeunes talents dans la ville de Détroit. Et ces jeunes veulent vivre au cœur de la ville, dans un milieu urbain. Donc rénover cette gare va nous permettre de les attirer. C'est vraiment un immeuble magnifique. Le rez-de-chaussée restera ouvert au public. On veut qu'il redevienne un lieu de rassemblement avec des boutiques, des activités. Nous voulons aimanter les gens vers la gare. Et ensuite, bien sûr, nos employés seront dans le bâtiment. Ils travailleront sur les véhicules autonomes et les voitures électriques. Tout ce qui concerne le présent et le futur du transport mobile, c'est donc ici que travailleront nos meilleurs talents.
Combien de personnes vont venir ici?
Entre 2500 et 5000, donc cela fait beaucoup de monde.
Aux environs immédiats de la gare, seul éclat de vie dans un paysage urbain dévasté, une maison en bois, vert pastel, pimpante. Stéphane McGee y habite avec sa femme et ses trois jeunes enfants.
Nous avons acheté la maison en 2013. Personne ne s'intéressait à ce quartier. Très peu de gens venaient ici, la gare était vide, et il y avait très peu d'espoir de reprise. C'était dans un état déplorable. Cette maison, c'était, paraît-il, l'un des meilleurs endroits pour acheter de la drogue à Détroit. Elle a connu la délinquance, un incendie et de nombreuses dégradations avant de devenir le lieu où nous élevons nos enfants.
Tous ces bâtiments autour sont vides.
Oui, tous sont vides. Juste à côté de chez nous, c'est un hôtel qui a été revendu en 2012 pour 26 000 dollars. Il y a 5 étages, donc les prix étaient vraiment incroyables il y a 5 ans. Ils viennent de refuser une offre à 4 millions de dollars. L'arrivée de Ford va faire grimper les prix de nos propriétés. Le changement que Ford va apporter est énorme.
Le Nemos Bar se trouve 2 kilomètres plus loin, sur la Michigan Avenue, une large artère qui file droit vers le centre. Patrick Torres y sert de la bière depuis bientôt 35 ans.
Ford a toujours été la vraie famille de Détroit. Ils ont pris soin des gens et c'est incroyable qu'ils rénovent la vieille dame de la ville. On pensait que la gare ne serait jamais reprise et maintenant elle l'est et c'est fantastique. Ça va être fantastique pour tout le monde. C'est ce que nous avions toujours espéré.
Le nouveau tramway s'arrête à New Center. C'est là que se dresse le Fisher Building, un des joyaux de l'architecture de Détroit, que l'on visite avec Henri Briche. On arrive dans un hall magnifique, avec des lustres des années 20, des arches peintes en couleurs pastel, du marbre partout au sol.
Ça révèle la richesse de l'industrie automobile de l'époque. Donc c'était dans les années 20 que General Motors a décidé de quitter le centre-ville et installer son siège social à quelques kilomètres du centre, puisqu'on était à la période d'or, l'âge d'or de la ville, en espérant que, en gros, la croissance du centre-ville les rattrape. Malheureusement, 1929 est arrivé, donc ça a été très longtemps au milieu de nulle part, donc maintenant, les investisseurs reviennent autour de ce quartier aussi, où c'est un petit peu moins cher que le centre-ville, mais ça a gardé son charme d'antan.
Shinola a installé son usine il y a 5 ans, à 2 pas de ce trésor des années folles. Shinola fabrique des montres, des sacs de cuir, des vélos, de l'artisanat haut de gamme, estampillé Détroit. Alex Drinker, directeur du marketing.
On est tombé amoureux de la ville et à l'époque, on a réalisé que les gens d'ici avaient les compétences requises pour fabriquer nos montres de qualité. Et on a maintenant 6500 employés dans le monde, dont 3500 à Détroit. Avoir le nom de Détroit gravé sur nos montres prouve à quel point nous sommes fiers de faire partie de cette ville, de l'énergie qui s'en dégage. On va ouvrir un hôtel de 130 chambres au centre-ville à la fin de l'année. Et ce sera une nouvelle manière pour notre marque d'interagir avec la communauté et de nous assurer que nous contribuons à sa croissance.
this time.
Eastern Market, le cœur battant de la ville côté est. Des étals de pommes du Michigan, de maïs, d'herbes aromatiques, un cours de yoga dispensé sous la halle en fer forgé. Les fresques murales du quartier nous mènent jusqu'à un ancien local de pompiers. Jérôme Huez, français, y a ouvert son agence immobilière en 2011, en pleine crise.
Ça s'est écroulé et on se disait on va revenir au même niveau où là on était en 2006-2007. Mais le développement immobilier est peut-être 10 fois plus important maintenant qu'il était en 2006. On est peut-être 2 fois plus cher maintenant qu'on était en 2006, avant la crise. En fait, ce qu'on vise, c'est de se dire, on va rattraper un jour Chicago, Toronto, qui sont nos deux gros voisins. Alors, ça va prendre plusieurs décennies, mais on voit que la dynamique qu'il y a avec les différents investisseurs, Ford ou Dan Gilbert ou Olympia Development, qui a le nouveau stade de basketball et de hockey, on voit qu'ils ont des visions de projets qui sont 5, 6, 10 milliards de dollars d'investissement sur la ville. Et c'est ça qui nous permet de voir une visibilité dans le futur. Et on ne va pas s'écrouler comme on s'était écroulé à la dernière crise.
C'est toujours rentable d'investir à Détroit, c'est toujours abordable?
Oui, tout à fait. Même si on est revenu à un niveau qui est bien au-delà de là où on était avant la crise, à Détroit, la plupart des biens qu'on vend sont moins chers au mètre carré que des biens dans les petites villes des banlieues autour de Détroit. Donc on sait qu'il y a encore beaucoup de marge d'appréciation puisque Détroit offre des services qui ne sont pas disponibles dans ces banlieues. Cette nouvelle génération qui achète maintenant, ceux qui ont une trentaine d'années, ils veulent être près des centres d'intérêt, près des restaurants, près des stades, près de là où ils travaillent. Ça ne les intéresse pas d'être plus loin. Donc on reconstruit au centre et on abandonne un peu les quartiers périphériques. Donc c'est pour ça qu'il y a toujours beaucoup de quartiers abandonnés à Détroit et beaucoup d'argent concentré dans les quartiers où il y a plus de densité, puisque c'est ça que la nouvelle génération veut. Plus de densité de services et plus proche du centre-ville.
Donc là, nous arrivons dans les quartiers est de la ville et il y a beaucoup d'endroits vides. Hein.
Là, on a vraiment le paysage de prairies urbaines hein, avec des parcelles vacantes, un peu à perte de vue. Incendie de droite à gauche qui nous rappelle qu'on est dans une ville, mais sinon c'est les quartiers qui n'ont pas résisté aux années de déclin, aux démolitions de la ville.
Toutes les maisons inhabitées n'ont pas encore été détruites.
Non, la politique de démolition c'est assez récent, c'est la politique urbaine de Mike Duggan. Son objectif lui c'est d'éradiquer les maisons délabrées à la fin de son mandat. Ils avaient estimé qu'il y avait autour de 40 000 structures à démolir en urgence, avec 80 000 à terme. Et la ville, aujourd'hui, démolit autour de 14-15 000 structures. C'est un pari politique qui a marché pour lui, parce que c'est hyper visible. Les gens veulent qu'on démolisse.
Parce que ces maisons abandonnées sont vecteurs de criminalité, d'activités illicites.
Tout à fait, il y a beaucoup d'études américaines qui démontrent ça très bien. Il suffit qu'il y ait une ou deux maisons vacantes dans un quartier pour que le quartier bascule très rapidement et soit pris d'assaut par la drogue et la criminalité.
Et là, on est arrivé à Heidelberg. Donc, c'est un quartier qui a été investi par un artiste. Eh bien, on va aller voir. L'artiste Tyrone Keaton discute devant l'une de ses œuvres avec des touristes.
Je me suis emparé d'une rue d'un pâté de maison et je l'ai transformé en environnement artistique. Ce quartier était sous les radars et il est maintenant en pleine lumière. Partir d'une mauvaise situation et aboutir à une bonne, voilà ce que je fais.
Il y a des jouets, il y a juste devant nous une série de parpaings avec des téléphones dessus, partout des horloges dessinées sur des grandes planches en bois, un tas d'objets hétéroclites, des motos, des caddies de supermarché.
Je veux que les gens viennent voir le quartier. Je leur donne une raison de venir rencontrer les gens d'ici et donner l'occasion à mes voisins de rencontrer des personnes du monde entier. Je construis des ponts.
Vous avez des visiteurs du monde entier ?
Toute l'année, des gens du monde entier.
Tout le monde parle du renouveau de Détroit. Vous sentez cette renaissance même ici ?
La renaissance de Détroit est réelle et je fais partie de cette équation. J'y contribue dans ce quartier. La ville change parce que les gens changent la ville. C'est très enthousiasmant d'être à Détroit en ce moment.
Changer la ville, c'est aussi ce que font Ali Guinness et Tyson Gersh plus au nord avec leur ferme urbaine créé il y a 7 ans.
Nous avons plus de 300 variétés de légumes, des bénévoles viennent chaque semaine et tous les samedis nous récoltons et distribuons nos produits aux gens du quartier, à tous ceux qui passent, c'est totalement gratuit.
Cette ferme urbaine occupe de manière productive un terrain qui sinon serait vacant. Si vous voulez vraiment comprendre la valeur que nous apportons, pensez aux 10 000 bénévoles qui viennent du monde entier, aux étudiants des universités de la région, qui sans cette ferme ne seraient jamais venus à Détroit et qui ont décidé de s'installer ici. C'est aussi les 3 500 000 dollars investis dans les maisons des alentours. Des individus qui, parce qu'ils aimaient la ferme, ont décidé d'investir dans le quartier et d'y retaper une maison. Par ici, la moitié des habitations sont encore vides. Et notre ferme attire les investisseurs parce qu'ils veulent vivre près de cet espace agricole dans un environnement urbain. Donc cela a été une bonne stratégie pour revitaliser le quartier. On peut dire sans hésiter que cette ferme a été un atout majeur pour réinvestir ici.
Un peu plus loin, Ronnie Simon, 65 ans, tue le temps devant sa maison cernée de parcelles herbeuses. Les rares bâtisses qui projettent encore leur ombre sur le macadam aux alentours sont inoccupés.
Je vis dans cette rue depuis 1953. À l'époque, il y avait des maisons partout, des boutiques, des restaurants, des coiffeurs. Il y avait tout, juste là. Les gens me manquent, ils me manquent. Beaucoup sont partis. Mais les gens retapent les propriétés. Ils rénovent, ils nettoient, ils réparent ces maisons. Ce quartier reprend vie. Comme je l'ai dit, je suis ici depuis des années. Il y a une époque où il n'y avait que des maisons abandonnées et des ordures partout. Mais ça s'améliore. Quelqu'un va finir par s'installer. Personne n'a encore aménagé.
Donc vous devriez avoir bientôt de nouveaux voisins.
Oui, bientôt. J'ai besoin de nouveaux voisins. J'en ai marre de regarder ces maisons vides. Il n'y a pas eu d'enfants dans cette rue depuis des années et des années. J'aimerais bien voir des enfants.
Hello. I'm Diane, going upstairs. Thank you.
Diane Filet nous accueille chez elle, à l'autre bout de la ville, plein ouest, derrière la gare centrale. Elle fait partie d'une association qui lutte contre les expulsions, le côté sombre du renouveau de Détroit.
Certains quartiers sont gentrifiés. Ça signifie que les gens qui y résidaient n'ont plus les moyens d'y rester. Et ils sont déplacés dans d'autres quartiers plus éloignés. Et j'ai peur que ça arrive ici, maintenant que Ford a racheté la gare. C'est formidable qu'il la rénove, mais nous sommes très inquiets que les prix augmentent. C'était effrayant. En tant que locataire, je suis très inquiète.
Il y a toujours beaucoup de gens expulsés de chez eux.
Détroit a toujours été une ville où la majorité des gens étaient propriétaires de leur domicile. Mais ce n'est plus le cas. 54% de la population est locataire. Détroit, c'est comme le Far West. Le monde entier vient investir dans l'immobilier. Ils achètent des maisons qu'ils n'ont jamais vues. Ils les regardent sur Google. Et il n'y a pas de loi, ou le peu de lois qui existent ne sont pas respectées. Ils emploient des sociétés de gestion, et nous avons beaucoup de problèmes avec ces sociétés. Donc les expulsions de locataires sont un nouveau gros problème.
Plus loin encore, Delray est un quartier déserté entre la rivière et la voie ferrée. Price est assise devant sa maison avec sa grand-mère et ses chiens, peu habitués aux visiteurs. Un pont est en construction à proximité et la plupart des habitants ont été expropriés. Price se sent abandonné.
Les promoteurs du pont ont payé les gens pour racheter leur maison et les familles ont été contraintes de partir. Mais de ce côté-ci du quartier, ils ne nous ont rien offert pour déménager. Donc c'est triste, j'ai passé toute ma vie ici. Je suis allée à l'école ici.
Il n'y a plus d'école ?
Non, il n'y a plus rien. La bibliothèque qui était sur la 4e rue a disparu. Il n'y a plus rien pour les enfants, plus rien. Avant, c'était un quartier très agréable ici, plein de vie, plein de monde. Tout le monde connaissait tout le monde, mais les choses sont devenues bien tristes.
Donc le pont en construction n'apporte aucun progrès pour vous ?
Non, pas pour nous, pas pour la communauté de Delray.
La renaissance de Détroit, entre friches urbaines et gratte-ciel rutilant. Un grand reportage d'Anne Corpet, à la réalisation Pierre Chaffanjon.